CKIA 88,3 FM avec vos animateurs Julien Lapierre et moi-même, Luc Roland Brunard.
Bonsoir, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Occupons les ondes, émission préparée par un collectif issu du mouvement Occupons Québec et toujours heureux de vous offrir ce rendez-vous hebdomadaire à l'antenne de CKIA tous les mercredis de 17 à 18 heures. Cette émission nous permet de nous entretenir de sujets variés d'actualité, sujets qui nous interpellent, piquent notre curiosité, nous préoccupent et qui, nous le pensons, doivent être abordés, discutés et réfléchis ensemble. Nous évoquerons tout au long de la saison dossiers, thématiques, enjeux qui relèvent tant du politique, de l'économique, du social que de l'environnement et qui, ma foi, trop souvent suscitent l'indignation. En ce début du 21e siècle, à l'ère de la mondialisation, de l'ouverture quasi complète des marchés, du néolibéralisme à outrance où un système capitaliste de plus en plus vorace et irresponsable s'impose à tous, où la société de consommation ne fait qu'accumuler problèmes et conséquences désastreuses, tant sur les populations du globe que sur l'environnement, nous croyons qu'il est de notre devoir de nous informer et de rendre disponible cette information. Tous ces enjeux criants, interreliés pour la plupart, devraient nous amener à reconsidérer nos façons de faire. Ces grands dossiers, choix de société, qui déterminent notre présent tout comme le futur de nos enfants, ne sont la plupart du temps décidés qu'en haut lieu, où le politique se confond, pour ne pas dire se corrompt, à l'économique et ses puissants représentants, nous laissant bien souvent perplexes, dépassés, inquiets et habités d'un sentiment d'impuissance. Malheureusement, les politiciens, une fois élus, se croient bien souvent rois et maîtres et font la sourde oreille quant aux revendications de la population. Nous n'avons qu'à penser à des dossiers tels que les gaz de schiste, la commission d'enquête sur la corruption et la collusion dans l'industrie de la construction, ou le retrait du Canada des accords de Kyoto, pour ne nommer que ceux-ci. Enfin, nous croyons fermement qu'il est grand temps d'agir en tant que citoyens et citoyennes, qu'au-delà de l'indignation, nous devons nous engager, chacun à notre façon, collectivement aussi et surtout, pour devenir acteurs et actrices du changement. Car le changement, c'est nous, le 99%. Donc, maintenant, Luc, je te laisse la parole pour nous détailler un peu comment va se dérouler l'émission. Alors,
Oui, merci Julien. Alors, toute l'équipe d'Occupons les ondes est en ce moment très heureuse et fébrile en raison du premier segment de l'émission qui vraiment nous comble de joie. Alors, je vais vous faire languir un petit peu, chers auditeurs, puisque je vais commencer par la fin. D'abord, nous vous ferons, pas d'abord, mais plutôt à la fin, nous ferons, comme les autres semaines, un panorama des activités prochaines du mouvement Occupons, tant ici au Québec qu'ailleurs dans le monde. Avant d'en arriver là, nous aurons développé le thème de l'action citoyenne éclairée par un exemple plutôt spectaculaire de mobilisation au Chili qui a vraiment forcé le gouvernement à reculer et abroger une mesure extrêmement néfaste pour la population, ce que notre nouveau chroniqueur ce soir, Charles-Eugène Bergeron, va nous expliquer. De son côté, Benjamin Clich va faire un tour d'horizon des gestes démocratiques, c'est-à-dire les différents moyens que vous et moi, monsieur et madame tout le monde, si vous voulez, nous pouvons utiliser pour littéralement changer le monde, et ce, sans que cela nous demande un temps fou ou une énergie considérable. Mais avant tout, nous allons discuter des quelques réflexions qu'a si généreusement voulu partager avec nous nul autre que monsieur Stéphane Hessel lui-même, dans une entrevue exclusive à l'équipe d'Occupons les ondes, représentée pour l'occasion par Pascal-Marie Milan. Stéphane Hessel est ce vénérable monsieur de 95 ans aujourd'hui qui, avec ses livres « Indignez-vous » et « Engagez-vous », a vraiment allumé l'étincelle qui a donné naissance au mouvement des indignés partout à travers le monde. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants d'avoir bien voulu s'adresser directement à vous, citoyens de Québec, sur les ondes de CKIA. Monsieur Stéphane Hessel, donc, tout de suite après la chanson « Le coup d'État » du groupe Carquois.
C'est l'air là d'une tête, d'une tête basse et blême, celle qui traîne et porte le teint d'un parvenu, d'une course de rattrapage, du cœur qui tend la voie d'usage, un va-et-vient de temps en temps, celui qui me torture, me fraude, mais le pas inconstant, qui cherche le marchepied, mais qui saute à temps. sur le sol qui souffre, étendu là où il est permis. À quatre pattes et bouffe ce que l'homme lance de vivre. Mais j'ai durement terni depuis nos derniers baisers. J'ai vaguement pris le temps qu'il faut pour expier.
Samedi dernier, que Pascal-Marie Milan, que vous avez eu le plaisir d'entendre à notre première émission, a pu joindre au téléphone à sa résidence de Paris, M. Stéphane Hessel. Rappelons brièvement la feuille de route impressionnante de ce gentleman. Durant la Seconde Guerre mondiale, il rejoint Charles de Gaulle et le gouvernement de la Résistance à Londres. De retour clandestinement à Paris, il est arrêté et déporté dans un camp de concentration. Il s'évade, il est repris, il est amené dans un autre camp de concentration et il s'évade encore. Ce qui en fait une sorte de James Bond, comme dit notre chère réalisatrice Marie-Hélène. Alors, en 1948, il participe à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU, un texte tout à fait révolutionnaire que je vous invite à consulter. Révolutionnaire pour l'époque, bien sûr, mais encore aujourd'hui, puisque malheureusement, bien des droits énoncés dans cette déclaration ne sont toujours pas respectés dans bien des pays, y compris le Canada. Alors, après une longue et fructueuse carrière diplomatique, il écrit en 2010 une petite plaquette intitulée « Indignez-vous », dans laquelle il admet que les motifs d'indignation sont moins faciles à identifier aujourd'hui et à cerner que durant le péril nazi, mais il précise qu'ils sont tout aussi importants. Madrid, Wall Street, puis plus de 1500 villes à travers le monde captent le message. Le mouvement des indignés se répand comme une traînée de poudre. Hessel, très agréablement surpris, répond par un deuxième livre, « Engagez-vous », car l'indignation est essentielle, dit-il, mais ne suffit pas. C'est donc en excellente compagnie que je vous laisse avec M. Stéphane Hessel.
Alors, donc ici, outre-Atlantique, nous avons reçu vos livres « Indignez-vous » et « Engagez-vous ». Plus récemment, on a aussi reçu le livre « Le chemin de l'espérance » que vous avez écrit avec Edgar Morin.
Avec Edgar Morin, oui.
Voilà. Donc dans ce livre, en fait, vous faites des propositions très concrètes qui vont un peu dans le sens de l'écologie politique. Et oui. On aurait aimé que vous nous en disiez plus à propos de cette politique du bien-vivre.
Voilà. Il nous semble que le moment est venu pour l'humanité tout entière, les hommes de toutes les sociétés, de la société globale actuelle, il est temps de donner toute l'importance à la bonté, la compréhension de l'autre, le respect des droits de l'homme, bref, des valeurs fondamentales, mais qui n'ont pas été suffisamment respectées au cours de cette dernière période où les impératifs financiers du marché et de l'économie ont primé sur les valeurs humaines fondamentales. Il nous semble qu'il est temps de s'apercevoir que cette idéologie néolibérale conduit à des impasses et à des crises très graves et qu'il est donc essentiel de s'engager sur un autre chemin, le chemin de l'espérance, un chemin où les hommes apprendront à être entre eux plus fraternellement.
Ça me fait très plaisir de vous entendre dire ça. Concrètement, quel est le rôle en fait politique que peut exercer le citoyen au-delà des frontières, dans son propre pays, ici au Québec ou en France?
Il faut qu'il commence par s'apercevoir qu'il y a des choses inacceptables et que c'est d'ailleurs pour lui la raison de s'indigner. Mais quelles sont ces choses inacceptables? C'est essentiellement la primauté du commerce, de l'argent, du profit, qui a envahi toutes nos sphères, même celles de l'art et de la culture, qui risquent maintenant de n'être évaluées que pour ce que ça rapporte. Bref, il y a une transformation à opérer. Et naturellement, le lieu où elle doit s'opérer en premier lieu, c'est l'éducation. Il nous faut une autre façon de former les esprits, de ne pas les laisser s'enfermer dans des considérations purement matérielles et de leur donner une ouverture sur ce qui est art et poésie.
Très bien, merci. J'ai une autre question à vous poser qui concerne le rôle des médias actuellement. Ici au Québec, on a été confronté pendant notre occupation de l'espace public à une désinformation et une haine qui a été attisée en fait par certaines radios québécoises. Et pour vous citer, une de ces radios a prôné en ce qui concernait les itinérants de les castrer et de les déporter dans le Grand Nord. Donc ce sont des propos très très graves et j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus en fait, savoir à votre avis quel était le rôle des médias actuellement dans nos sociétés.
Nous avons besoin de plus en plus de médias indépendants. Le rôle joué malheureusement par des médias manipulés par des forces hostiles et quelquefois par des forces de l'argent et du profit, ces médias ne nous donnent pas une vue juste, notamment sur des problèmes aussi graves que le problème des flux humains, des flux migratoires, la nécessité de comprendre ces flux, de les accueillir avec respect. Il y a hélas des médias qui montre le chemin inverse, qui disent il faut les flanquer dehors parce que nous ne pouvons pas les accueillir. C'est très grave et il faut savoir résister grâce à des médias plus compréhensifs sur les besoins de l'humanité.
Merci Stéphane Hessel. J'ai une dernière question. Cette question en fait concerne un peu votre engagement au sein du Collégium international. Oui. Je me demandais dans quelle mesure, puisqu'aujourd'hui on voit naître beaucoup d'indignation dans le monde et notamment beaucoup de jeunes qui sont prêts à s'engager dans la vie publique, comment le Collégium international par exemple pourrait intégrer des revendications qui émanent de tous ces citoyens lambda qui sont très au courant finalement de ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés?
C'est l'un des objectifs majeurs de ce Collégium. Vous vous souvenez qu'il réunit à la fois d'anciens chefs de gouvernement ou d'État et des penseurs, des philosophes. Mais ce qu'il souhaite, c'est de donner aux citoyens et citoyennes de base l'occasion d'exprimer leurs besoins fondamentaux, de les faire connaître à ceux qui ont la responsabilité de diriger notre monde, les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Ils doivent comprendre quels sont les besoins fondamentaux des citoyens et des citoyennes. Et il leur appartient de les exprimer avec force et avec courage, comme ils l'ont fait, par exemple, au cours de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Il est bon que des citoyennes et des citoyens dans tous nos pays, au Canada, au Québec, comme en France, expriment courageusement leurs revendications avec suffisamment de force pour que les gouvernements soient obligés d'en tenir compte.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Stéphane Hessel.
Je vous en prie, j'espère que ça conviendra à peu près à ce que vous voulez transmettre.
J'attends un peu d'être en retard avant de me sortir du lit. Pas de réveil en fanfare, c'est un état d'esprit. J'attends que le lait dans le bol ait la couleur des céréales et céréales en général. Pas de réveil idéal. J'attends que la journée m'attende avant de la démarrer. J'aime bien tourner un peu en rond quand mon programme est carré. J'attends que les infos dans le poste annoncent de bonnes nouvelles. Je pourrais attendre longtemps, je préfère me faire la belle. Alors j'attends l'ascenseur et puis j'attends les feux verts. J'attends des sourires sincères et quelques esprits ouverts. J'attends la fin des bouchons pour espérer être à l'heure. Un rendez-vous à la con, j'attends d'être de bonne humeur. J'attends que la journée avance pour me sentir avancé. Nonchalance insensée, patience associée. Insouciant des heures qui glissent, le temps restant relatif. En fait j'attends concrètement de retrouver un objectif. J'attends que l'inspiration vienne frapper à ma feuille. J'attends que le besoin d'écrire ait déjà bien passé le seuil. Et quand j'attends, je regarde, et parfois je désespère de voir le monde autour de moi qui tourne la tête à l'envers. J'attends qu'il n'y ait plus besoin en France du CV anonyme pour embaucher des Français qui ont une autre origine. J'attends la fin de l'hypocrisie et sans criser, j'attends la fin d'un système qui avoue son racisme latent. J'attends aussi bêtement la fin du pouvoir absolu, des actionnaires, des dividendes, des profits s'étendus. Comme la vie des hommes dépend du mot rentabilité, derrière les chiffres se jouent des drames dans une étrange banalité. Alors j'attends et j'observe, et je me surprends à me taire. D'une patience coupable, j'attends et j'entends les charters. J'attends et j'étends l'analyse sur l'ensemble de la période, et je constate que l'être humain n'est vraiment plus à la mode. J'attends. Le fait d'attendre, c'est bon signe, c'est que t'as du temps devant toi. Peut-être plus devant que derrière, enfin c'est ce que tu crois. Car je sais pas ce que sera ma route dans les prochains jours. Elle peut très bien s'arrêter net dès le prochain carrefour. Alors j'attends plus d'être pressé, mais je m'empresse de ne plus attendre. Je dois me rendre compte que chaque seconde n'a aucun compte à me rendre. Puisque le temps ne m'attend pas, moi je l'attends de moins en moins. Et je remets à aujourd'hui ce que j'ai envie de faire demain. Alors quand je peux j'agis, et quand je le sens je m'exprime. Ça changera peut-être pas le monde, mais si tu sais lire entre les rimes, tu comprendras ma pensée et mes façons d'avancer. Avant qu'il soit trop tard, je me prépare et j'essaie. J'attends toujours l'ascenseur, j'attends toujours les feux verts. Mais j'ai le sourire sincère et je garde les ouvert. Alors je rentre chez moi enfin pour une soirée sabbatique, et j'attends le sommeil serein sur un vieux son lunatique. J'attends. Alors j'attends de moins en moins, et parfois c'est pratique. Quand c'est trop long, j'attends même pas la fin de la musique.
On vient d'entendre Grand Corps Malade avec sa chanson J'attends. Et pendant ce temps-là, Marie-Hélène Desmeules, Benjamin Clich et Julien Lapierre se sont joints à moi pour réagir à cette entrevue que vous venez d'entendre, donc, de Stéphane Hessel, qui, en peu de temps, a couvert des sujets fondamentaux. Je vous rappelle, par exemple, l'éducation, les médias, la domination du monde financier et le collégium international, ce que peut-être, à la maison, vous n'avez pas tellement, ce dont vous n'avez peut-être pas entendu parler encore. Alors, Marie-Hélène, est-ce que tu pourrais d'abord, nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, certainement. Donc, le Collégium international a eu ses débuts en 2002. Donc, suite à l'invitation du président de la République de Slovénie, des hommes d'État, donc notamment des anciens présidents ou des anciens premiers ministres, et des intellectuels, dont Habermas, Sloterdijk et Stéphane Hessel, Edgar Morin aussi d'ailleurs, se sont réunis pour réfléchir aux conséquences des mutations qui affectent notre monde. Et notamment, ils se sont donné trois défis fondamentaux. D'abord, examiner les menaces écologiques, examiner les dérèglements économiques et financiers, et aussi réfléchir à la crise du sens et de la pensée. Donc, notamment, par rapport à cette crise du sens, ils parlent de s'opposer à la fascination de la violence et de l'intolérance, ou à l'obsession matérialiste et à sa propre violence. Donc, pour créer une démocratie mondiale et vivante.
Bien, tout un programme et une belle brochette d'invités autour de cette table du Collégium. C'est vraiment...
D'ailleurs, j'aimerais souligner, ont un accès direct à l'ONU et à l'UNESCO. Donc, on parle d'un Collégium international qui est une organisation mondiale, en fait, qui essaie de défendre les intérêts de l'entièreté de l'humanité.
Et est-ce qu'ils font connaître leurs réflexions dans le grand public aussi?
Oui, notamment par la publication de leurs pensées ou de leurs écrits. À cet égard-là, vous pouvez les trouver sur Internet assez facilement. Donc, c'est collegiuminternational.org.
Bien. Et Benjamin, Julien, comment vous avez reçu l'entrevue de Stéphane Hessel?
Bien, moi, j'ai été absolument agréablement surpris et ravi d'entendre cette entrevue-là, qui est très courte, mais comme tu l'as mentionné, qui contient quand même plusieurs points très importants. Moi, ce que j'aime bien de Stéphane Hessel, en fait, c'est la manière, évidemment, qu'il parle, on sent qu'il a une expérience de vie extraordinaire. Donc, on parle d'un monsieur de 95 ans. Donc, c'est vraiment intéressant d'entendre ses propos qui sont à la fois simples, mais très profonds, puis très importants. Puis, j'aime bien aussi les livres qu'il a écrits successivement sont très symboliques. Le premier qui est « Indignez-vous ». Donc, il dit « Il faut s'indigner ». Le deuxième qui est « Engagez-vous ». Il faut aller plus loin que l'indignation. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a des choses inacceptables, mais il faut aller plus loin, il faut s'engager. Puis, le troisième livre qui est parlé dans notre vue aussi, c'est « Le chemin de l'espérance ». Donc, il faut s'indigner d'abord, il faut s'informer, il faut s'indigner de ce qui nous convient pas. Et ensuite, il faut s'engager sur le chemin de l'espérance. Et ça, c'est très beau, c'est très poétique.
Et dans le dernier livre, je pense qu'on parle davantage aussi des actions concrètes qu'on peut appliquer dans nos vies tous les jours en tant que citoyen et tout ça. Moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai retenu, entre autres, du livre là, « Engagez-vous », là, ce qui m'a vraiment touché. Ben, d'abord, j'allais aussi ajouter que quand il parle dans l'entrevue, on sent aussi que c'est senti. Hein? C'est un monsieur qui a donné sa vie, qui a quand même dédié sa vie à défendre des grandes causes comme ça, puis bon, on sait aussi d'où il vient, là. Mais bon, donc, moi, c'est ça, il y a une partie de son livre, là, que j'ai retenue, qui est le fait de lutter contre la désespérance. Je pense que c'est une des choses que j'ai retenues, qui m'a touché le plus. C'est l'idée, puis je l'ai vécu, puis je pense que des gens le vivent aussi, c'est comme cette espèce de désespoir à savoir qu'on peut pas arriver à faire des changements dans notre au niveau, comme par exemple de l'environnement, tu sais, au niveau de la planète, on se dit des fois, mais coudonc, même si je ramasse mes trucs puis je les mets dans le bac à recyclage, ben coudonc, les usines, tout ça, tu sais, nos gouvernements aussi qui ont pas l'air à trop travailler dans le bon sens, tu sais. Mais ça m'a particulièrement touché aussi, puis il fait un rapport aux jeunes générations, là, comme quoi que c'est important de transmettre aux jeunes générations que c'est possible de gagner des batailles, puis que c'est important aussi de s'impliquer dans une forme de collectivité, hein, parce qu'on est de plus en plus dans un air d'individualisme.
Oui, tu dis que ça t'a touché, moi aussi, beaucoup, ce monsieur m'interpelle énormément, et cette entrevue, quand même, je ne sais pas si mes informations sont bonnes, mais j'ai entendu dire qu'il donnait très peu, ou voire pas du tout d'entrevues aux grands médias comme Radio-Canada ou la BBC.
On a été choyés.
Et là, il est à Radio Basse-Ville à Québec. Donc, et il parle des médias et d'un motif d'indignation très important, qui est la concentration des médias dans les mains des pouvoirs financiers ou politiques. Et il nous dit, c'est très important qu'on retrouve des médias indépendants, parce que là, on fait face à une désinformation qui est tout à fait...
Scandaleuse.
Ouais. Alors, lui, il joint l'acte à la parole, comme on dit, en accordant une entrevue à nous-mêmes, ici à Radio Basse-Ville.
Ce que j'aimerais aussi rappeler, peut-être, ou souligner, c'est la simplicité de son message. C'est-à-dire que ce qu'il nous dit, grosso modo, c'est qu'il faut avoir de l'espérance, il faut avoir de la fraternité. Les droits sont menacés par notre économie. Et il nous appelle justement à relire peut-être cette déclaration des droits de l'homme. Puis c'est vraiment intéressant, à la relire, en fait, on voit à quel point il était révolutionnaire. Donc on parlait à cette époque-là de prendre part à une vie culturelle de sa communauté, d'avoir le droit de jouir des arts, d'avoir le droit de participer au progrès scientifique et à ses bienfaits. Et d'ailleurs, je veux juste vous faire une petite indication, c'est l'article 29 de cette déclaration qui parle des devoirs aussi. Donc on parle souvent des droits, mais dans cette déclaration-là, on parle des devoirs. Et il y est dit que l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Donc, peut-être qu'on pourrait justement rallier cette question-là des devoirs à la question justement du rôle politique du citoyen.
Du citoyen.
Donc, peut-être qu'on a le devoir justement de s'impliquer en tant que citoyen au-delà du seul vote. Donc,
je le pense vraiment. Je sais pas, moi, pour dire aussi que... Ben c'est ça, c'est moi ça a éveillé tant le livre que ce qu'on a vécu sur le campement dans Saint-Roch, hein, les mouvements, les groupes, là, ce qui se passe sur la planète, là, les mouvements d'occupation, je pense que ça vient aussi réveiller une ferveur d'implication. Donc, sur ça, ben malheureusement on doit terminer, on doit s'arrêter là faute de temps. C'est bien agréable en fait de discuter en table ronde comme ça, c'est toujours intéressant de se lâcher l'os puis de vivre l'expérience. Donc, maintenant, on va aller en chanson avec Renaud. Société, tu ne m'auras pas.
Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi, qui viendra après moi, c'est pas fini. On les a récupérés, oui, mais moi, on m'aura pas. Je tirerai le premier, je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme qui étaient pas vraiment virils mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains, j'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
Vous écoutez toujours l'émission Occupons les ondes à CKIA 88,3 FM. Alors, Benjamin Clich est resté avec moi pour une chronique sur les gestes démocratiques. Ça enchaîne bien avec le sujet dont nous parlait tout à l'heure M. Essel. Alors, Benjamin, tout le monde, quand on parle de gestes démocratiques, a en tête le droit de vote à exercer aux 4 ans. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit?
Oui, mais effectivement, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? En fait, de ce que j'ai réfléchi au cours de la semaine, c'est que le geste démocratique, en réalité, est beaucoup plus large qu'un vote à chaque 4 ans. Donc, le geste démocratique, je pense que c'est plus sage de le voir comme étant un geste au quotidien. Donc, effectivement, il y a le vote qui est à chaque 4 ans. On peut quand même souligner aussi le taux d'abstention record auquel on assiste au niveau provincial puis au niveau qu'est-ce qui se passe? Il y a un son bizarre au niveau provincial puis au niveau fédéral. Donc, taux d'abstention d'à peu près 40%. Mais en fait, c'est de se réapproprier la démocratie en voyant le geste démocratique comme étant quelque chose au quotidien. Donc, un des premiers points qu'on pourrait aborder, c'est le thème « Acheter, c'est voter ». Donc, le thème « Acheter, c'est voter », c'est intéressant. En fait, c'est le titre d'un livre de Laure Varidel, qui est la cofondatrice d'Équitaire, qui est également aujourd'hui le porte-parole de la Caisse d'économie solidaire, qui a écrit en 2006 aux éditions Éco-Société « Le code du café », qui s'appelle « Le code du café », qui est sous le titre de « Acheter, c'est voter ». Donc, c'est un essai sur la portée du commerce équitable et qui traite de d'une coopérative mexicaine. Et ce qui est intéressant, un des thèmes qu'elle aborde, c'est justement le fait que le choix de consommation aurait en réalité un pouvoir politique. Donc, de choisir d'acheter ou de ne pas acheter tel produit et de favoriser, par exemple, les économies solidaires, en réalité, c'est un geste politique. Donc, à ce moment-là, on parle de quelque chose qui est quotidien. Donc, ça, c'est intéressant d'aborder le sujet de cette manière-là, là, de voir le geste démocratique comme étant quelque chose de quotidien.
Donc, on peut devenir un consommateur démocratique, un consommateur éclairé. Je m'excuse,
il y a comme un son étrange.
On a un problème technique.
OK, c'est bon. Je pense qu'on vient de trouver le problème. Il y avait...
Excusez-moi, j'ai dû changer de micro.
François Pérus est parmi nous.
Oui, voilà. On peut donc, je disais, devenir un consommateur démocratique, voter, consommer de façon éclairée et responsable. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions pour nous ce soir, Benjamin?
Oui, c'est effectivement, là, je parlais de gestes économiques, mais il y a aussi des gestes simples, parce qu'évidemment, le geste démocratique n'est pas seulement économique, c'est un geste politique. Ces gestes simples-là peuvent ressembler finalement à la prise de parole, donc l'usage libre de son entendement. Donc, de quelle manière ça peut se manifester? Ça peut être par des lettres ouvertes aux journaux. Donc, il y a toujours une section opinion dans les journaux qu'on peut faire valoir nos points. Ça peut être des lettres au courriel et au courriel aux décideurs publics, aux décideurs politiques. Donc, faut pas sous-estimer l'impact que ce genre de geste-là peut avoir. Ça peut être la prise de parole à la radio, comme on fait présentement. On peut voir ça comme un geste démocratique. Puis, puisque, dans le fond, un peu à la base de la démocratie, c'est le dialogue. Donc, c'est les êtres humains qui parlent entre eux, qui tentent de rechercher une vérité ou un consensus pour prendre telle ou telle direction. Donc, en ce sens-là, le blog aussi, Facebook, ou même les commentaires sur Radio-Canada, est un geste démocratique, donc de réagir aux nouvelles. Moi, je trouve ça très intéressant toujours d'aller lire les commentaires dans Radio-Canada, d'aller lire les opinions des gens. Et en fait, c'est l'usage libre de leur entendement. Puis aussi, il y a la section « accord, pas d'accord », donc ça fait comme un usage en temps réel de l'opinion, de voir l'opinion des gens en temps réel. Donc ça, c'est un geste démocratique. Sinon...
Alors... Oui, excuse-moi Benjamin, les gens qui nous écoutent en ce moment peuvent se dire « oui, mais ça prend du temps, de l'énergie. La loi du moindre effort peut faire en sorte qu'on regarde ce que les autres ont à dire sur ces fameux sites. Mm-hmm. En quoi c'est important que le plus grand nombre possible de citoyens s'informent, comme tu viens de le suggérer, et posent des gestes démocratiques? »
Mais en fait, c'est que ça envoie un message fort, finalement, aux décideurs politiques. Là. Lorsque les gens vont, par exemple, investir les institutions démocratiques qui nous entourent, comme l'Hôtel de Ville, l'Assemblée nationale, ça c'est un autre geste. Mais en réalité, les décideurs politiques voient que le citoyen s'intéresse, finalement, à leur milieu, à leur qualité de vie. Alors, on peut penser aussi dernièrement, dans la ville de Québec, le Rassemblement citoyen pour l'îlot Irving. Donc ça a été un geste démocratique et il ne faut pas oublier qu'on est dans une société qui donne quand même du pouvoir aux citoyens et c'est aux citoyens de prendre cette opportunité-là. Mais c'est sûr qu'évidemment, la vie, c'est comme à la radio, le temps finit toujours par manquer.
Voilà.
Mais d'aller voir très rapidement, par exemple, les sites web de l'Assemblée nationale, le site web de la Ville de Québec, il y a une foule d'informations là-dessus. Puis il y a une foule d'événements auxquels on peut participer. Ça peut être une soirée par semaine, une soirée par mois. Et c'est très enrichissant, finalement, que de s'investir, du moins seulement un peu, dans l'appareil démocratique dans lequel nous sommes.
Je te remercie beaucoup, Benjamin. C'est inspirant et instructif. Donc, on médite là-dessus en écoutant « Declare Independence » de Björk.
friends. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you.
Occupons les ondes à l'antenne de CKIA 88,3 FM. Donc, maintenant, nous avons le plaisir de recevoir un de nos recherchistes, Charles-Eugène Bergeron, qui représente pour l'occasion de cette chronique Développement et paix. Alors, on va parler, Charles-Eugène, dans les milieux éco-sociaux de la guerre de l'eau à Cochabamba. Quelle crise a entraîné cette guerre de l'eau?
Alors, c'est en 2000. Alors que la Banque mondiale, en 1994, avait changé les conditions pour l'octroi des prêts aux pays en développement, la Bolivie était forcée de privatiser ses services d'eau. Alors, la révolte populaire a été contre la lutte, une lutte contre les multinationales du secteur de l'eau et contre la logique de marchandisation impulsée par les institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, puis le Fonds monétaire international.
Donc, quels facteurs ou acteurs ont précipité cette crise-là, finalement?
Bien, il y a eu un appel d'offres de fait par la ville de Cochabamba qui était forcée à privatiser pour avoir des crédits pour investir dans les... Dans les services d'eau. Donc, c'était une privatisation forcée. Alors, il y avait la seule compagnie à avoir soumissionné. Il n'y en avait pas d'autre, là.
Okay, ouais.
C'était la compagnie Aguas de Turani, qui était une filiale de Bechtel, entre autres, une compagnie transnationale américaine. Il y avait des intervenants. Il y avait le président Hugo Banzer, l'ancien dictateur de la Bolivie. Il y avait les élites locales et le maire de Cochabamba, qui était M. Manfred Reyes Villa. Puis, il y avait aussi l'augmentation du prix de l'eau que ça allait amener entre 1996 et 2000 ont fait une vague de protestations qui a touché les corporations professionnelles, les associations de quartier, les syndicats de différentes entreprises. Et puis, il y a eu une coalition, la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, c'est la coordination de la défense de l'eau et de la vie. Alors, c'était dirigé par Omar Fernandez. Il y avait FEDECOR, qui était des groupes syndicaux. Puis, il y avait aussi une union paysanne qui s'appelait la Centrale Ouvrière, puis qui était dirigée par Oscar Oliveira, qui est un partenaire de développement et paix depuis une vingtaine d'années.
Okay. On sait, par exemple, moi, par expérience, j'ai été au Salvador et tout ça. Puis, des gens dans ces situations-là, dans ces pays-là... c'est quasiment une question de survie là, que d'avoir accès à l'eau. Puis, si là, ils sont pognés pour payer tout ça, j'imagine. Fait que donc, tu sais... Justement, ça doit être une des raisons là, pourquoi il était sensible. C'était un sujet sensible là, pour les Boliviens. Là,
ah, ben, tout à fait. Là. Il y a le quart de la population de Cochabamba qui n'avait pas accès à de l'eau potable, carrément, là, à prix abordable.
Ah, oui, voilà.
Puis, on va voir un peu plus tard que la situation n'est pas vraiment améliorée, même s'il y a des règles du jeu qui ont changé. La mobilisation aussi, c'est que en Bolivie, la principale couche démographique, c'est des indigènes. Et pour les indigènes, pour les Autochtones, l'eau, c'est sacré. L'eau, c'est un don de la terre-mère. Et puis, il y avait vraiment une raison profonde, spirituelle, qui faisait que la privatisation d'un don de la terre-mère, c'était ahurissant pour eux autres.
Fait que donc, jusqu'à où le peuple est-il allé, là, finalement, dans ces mobilisations-là?
Bien, je vais vous dire que ça a été assez loin,
ça
merci.
Ça a été assez loin, oui.
En mars 2000, la Coordinadora a demandé un référendum. Il y a 50 000 personnes qui ont participé. Ensuite, en avril, alors les gens ont descendu dans les rues. Tout le monde a participé.
C'est ça, c'est
hommes, femmes, enfants, professionnels, tout le monde a participé à ça. Alors, face à l'ampleur, le gouvernement, au lieu d'écouter la population, ce qu'il a fait, il a appelé l'armée. Alors, l'armée...
C'est là, un peu gens... comme ça dans le parc Saint-Roch.
Ouais, ils ont séquestré les leaders syndicaux. Oscar a été mis en prison. Ont été éloignés de Cochabamba. Mais là, les gens n'ont pas arrêté de protester, là.
Non.
Il était dans la rue en permanence.
Souvent, ça laisse là, plus d'indignation.
Alors, plutôt que de se mettre à tirer avec des AK-47 sur la population, ben là, le gouvernement est obligé de commencer à négocier avec les gens, tu sais, pour un peu acheter la paix. Et puis, ça a été une victoire, là, dans le sens que le gouvernement, il a dû négocier. Puis après ça, toutes les conditions qui avaient été imposées, qui avaient été mises de l'avant par la Coordinadora, ils ont été acceptées. Alors, Aguas del Turani, la multinationale...
Elle est obligée de se rétracter.
Est partie.
C'est ça, OK.
Puis là, elle a imposé au gouvernement bolivien une lourde amende.
Amende,
oui. Ben oui, parce que selon les contrats, les prix de contrats... Ben oui, mais là, le gouvernement bolivien, il ne voulait pas perdre la face non plus.
Face
aux marchés internationaux. Fait que ça a créé un réel problème pour le Fonds monétaire international, pour la Banque mondiale. Okay. C'est un exemple archétype d'un véritable engagement citoyen politique qui a fonctionné.
Fait qu'en fait, ça devient quasiment un exemple pour d'autres parties du monde où on doit... On peut prendre ça comme modèle. Là.
Ah oui. Pour le monde entier. Pour le monde entier. Puis, sur le forum de Occupons Québec, on va avoir les tenants et aboutissants de ça avec les liens. Puis je pense que c'est un cas d'espèce qui est très intéressant à étudier. Comment le succès d'un engagement citoyen collectif comme ça. Alors, je dirais que avec la victoire citoyenne de Cochabamba, on entre dans une véritable perspective d'écologie humaine puis d'humanisation de l'économie, puis c'est ça qui est important.
Puis un peu comme en conclusion, finalement, là, on sait qu'ils ne sont pas pas au bout de ses peines, tout ça. Puis est-ce que l'eau, là, finalement, va revenir, là, dans...
Bien,
abordable ou du moins, là?
Oui, bien, c'est ça qui est le défi, là. C'est que ben, là, c'est fini, la Cour de Nanora a mis une nouvelle compagnie qui a racheté les actifs qui avaient été privatisés avant. Ouais, ouais. Mais loin de là, si les structures de gouvernance participative et les services d'eau sont mis en place, il reste tout un esprit d'entrepreneurship citoyen à mettre en place pour la résolution des problèmes les plus importants. Mmh, d'abord, l'inéquité. Plus que tu es pauvre à Cochabamba, plus que tu payes cher ton eau. Puis le problème est encore là. Ouais, ouais. Alors, il y a vraiment une gouvernance participative à mettre en place, puis des structures, institutionnaliser des choses issues des citoyens. Puis il est là le défi. Puis on en a encore chez nos partenaires pour une dizaine d'années encore.
Donc, ben regarde, merci Charles-Eugène. Vraiment, c'était intense, super comme chronique. Donc, maintenant, juste avant de passer à la chanson, je vous inviterai pour la prochaine chronique. Ça va être en fait à l'agenda où je vais proposer des activités et des sorties. Donc, si vous voulez, auditeurs, auditrices, allez vous chercher un crayon et un papier, ça va faciliter la chose. Donc, on va aller en chanson avec Richard Desjardins. Nous aurons.
Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine, des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, abattoirs de millionnaires, des réservoirs d'années-lumière. Pas de lune.
Nous en ferons une.
Alors, c'est Simon à l'appareil qui vient vous donner quelques nouvelles nationales et internationales. Je vais commencer en fait par rappeler à tout le monde que chaque jour, il y a des centaines d'occupations partout à travers le monde qui organisent des activités de toutes sortes, dans le but commun de dénoncer le système économique et politique mondial actuel. Du Brésil à l'Alaska, de la Lituanie à la Chine, en passant par le Sénégal, le mouvement Occupy prend de l'ampleur chaque jour. Et ces temps-ci, en fait, c'est l'occupation dont on entend beaucoup parler, c'est celle d'Oakland aux États-Unis, où il y a des milliers de citoyens qui ont tenté récemment d'occuper un bâtiment inoccupé depuis 6 ans pour le transformer en un centre communautaire. Malheureusement, on peut s'en douter, le maire d'Oakland a répondu à leur cri du cœur avec une grande violence en dépensant des milliers de dollars en policiers, en gaz lacrymogène, en balles de caoutchouc, etc. D'ailleurs, il y a des dizaines d'occupations aux États-Unis et ailleurs qui ont tenu des marches au lendemain de ces événements pour manifester contre la brutalité policière. Pour les détails et des vidéos, je vous invite à visiter en fait le site occupywallst.org. Notons qu'il y a Occupy London qui avait réussi à créer en novembre dernier un centre communautaire qui avait tenu pendant 2 mois avant de se faire expulser lui aussi. Sinon, ailleurs aux États-Unis, il y a de nombreuses actions qui ont eu lieu pour perturber la saisie de maisons par les banques. Rappelons que selon Amnesty USA, environ 3,5 millions d'Américains sont sans abri, alors que 18,5 millions de maisons sont inoccupées. Pour ce qui est des événements à venir à l'agenda, il y a le 16 février la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics qui compte bloquer le Centre de commerce mondial pour manifester contre les nombreuses hausses de frais dans le prochain budget et qui nous invite à venir manifester avec eux. Sinon, il y a le 29 février prochain de nombreuses actions directes non violentes qui sont prévues contre les entreprises membres du groupe ALEC, incluant Walmart, McDonald's, BP et bien d'autres, qui, selon OccupyTogether.org, a aidé à la mise en place de lois racistes ou antisyndicales dans plusieurs États américains. Allons maintenant à Julien pour les nouvelles locales.
Voilà, à l'agenda cette semaine, pour ce qui est des activités plus à Québec et ou à Montréal, on a jeudi le 9 février, donc demain, à 18h30 au Cap-Mau, 435 rue du Roi, sera offerte en collaboration avec le REPAC une formation sur la défense collective des droits sous le thème « On s'attaque au bien commun, défendons-le ». Mentionnons qu'un souper à contribution volontaire vous sera servi à partir de 18h30, le tout gratuitement. Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 418-525-6187, poste 221. Ensuite, il y aura le 13 février, autre activité bien intéressante, dès 19h, ça aura lieu la prochaine rencontre du comité de la mobilisation de la coalition de Québec-Chaudière-Appalaches opposée à la privatisation et à la tarification des services publics, toujours au 301 rue Carillon, en basse ville de Québec, près de la rue Saint-Vallier-Ouest. La question de la hausse des frais de scolarité et de la taxe santé seront abordées et des actions de mobilisation y seront proposées. En fait, on va se préparer à faire des actions puis des mobilisations à Québec. Donc, pour plus de détails, visitez le site www.nonautaxes.org. N'oubliez pas de confirmer votre présence également au 418-523-4158. Maintenant, important aussi de mentionner que samedi prochain, il y aura une AG d'Occupons Québec dès 16h, comme toujours, à l'Ostradamus. Donc, ce sera samedi le 11 février, voilà. Donc, maintenant, ben, on termine avec ces nouvelles. On y va en chanson avec Raymond Lévesque, Bozo les culottes.
Flottait dans son pantalon, de là lui venait son surnom, Bozo les culottes. Il n'y avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, Bozo les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Bozo les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, Bozo les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Bozo les culottes. Les Anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait en pleine face, Bozo les culottes. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, Bozo les culottes. C'est son élite, c'est son clergé, depuis toujours l'avait trompé, Bozo les culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, Bozo les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Bozo les culottes. Tout le pays s'est réveillé, et puis la police l'a pogné, Bozo les culottes. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis ce temps, Bozo les culottes. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, Bozo les culottes. Nos politiciens à gogo, font les braves, font les pharaons, Bozo les culottes. Ils réclament enfin tes droits, Et puis les autres refusent pas, bonjour les culottes. De peur qu'il y en ait d'autres comme toi, quel goût de recommencer, bonjour les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne ne voudra savoir ton nom, bonjour les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on les fait pour être oublié, bozo les culottes, bozo les culottes.
Permettez-moi de remercier toute l'équipe d'Occupons les ondes, à la recherche et au développement Michel O'Neill, à la mise en onde et au choix musical Yannick Racine. L'agenda international vous a été présenté ce soir par Simon Michaud-Blais. Benjamin Clich et Charles-Eugène Bergeron ont été nos chroniqueurs du jour, à la réalisation la toujours trop modeste Marie-Hélène Demeul. Pascal-Marie Milan a interviewé pour vous M. Stéphane Essel. Julien Lapierre et moi-même, Luc Roland-Brunard, avons le plaisir d'animer ensemble cette émission. Et sachez que nous avons une muse nommée Isabelle qui nous a apporté cette semaine un précieux soutien tant technique que moral. Notre rendez-vous est hebdomadaire. Nous souhaitons donc vous retrouver mercredi prochain à 17h sur les ondes de CKIA 88,3 FM. L'indignation et l'engagement citoyen comme antidote à la résignation ou à l'indifférence, cela résume fort bien les propos de Stéphane Essel et les idées que nous avons tenté de mettre de l'avant ce soir. Nous espérons vous avoir indiqué quelques façons simples mais efficaces de changer les choses, des moyens à votre portée qui ne vous demandent pas d'y consacrer tout votre temps et qui ont déjà prouvé leur efficacité. Nous vous avons raconté une histoire de courage au Chili qui pourrait nous inspirer puisque le danger plane au Québec. Alors, on me dit que c'est tout pour ce soir. Passez une excellente soirée sur CKIA. Passe-moi la poque des colocs et l'émission. Mes amis de filles suivent à l'instant.
Aujourd'hui, la télévision est venue nous voir pour constater l'état du désespoir. Un couple de sans-abri à la veille de Noël, ça c'est un beau sujet pour le show des nouvelles. La caméra d'en face, j'y faisais des grimaces. Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse? C'est pour un reportage sur les plus démunis. Voudrais savoir ton nom, voudrais voir ton taudis. J'habite pas d'un taudis, m'appelle pas, je viens tout seul. En fait, t'es poissé, il y a ben mon poing sa gueule. Jordan Johnny travaille pour les yuppies. Si j'avais le droit de voter, ben je voterais pas pour lui. Il y a l'armée du salut, pourquoi tu vis dans la rue? J'ai dit, fais passe-moi un pote, puis je vais en compter des buts. Yeah! Posez d'autres questions sur ma situation d'intérêt public, de savoir si je me pique. Tu vois-tu de la robine, tu vois-tu d'un poubelle, fais-moi les détails de ta vie sexuelle. Canette, Ginette, qu'a t'es mangé, j'm'en vais me saouler. Tu vas savoir plus long si tu me donnes un peu de fric. C'est comme le téléthon à des alcooliques. Alors mets du salut, pourquoi tu vis dans la rue? Que tu fais pense-moi à pas que j'm'en compte tes débuts, yeah! numéro du PS, mais on peut pas t'aider si t'as même pas d'adresse. Ça fait que t'as des checkés, un petit logement de pièces. On peut pas te le louer, t'as même pas de PS. Comme un rat dans un laboratoire. Là, mais tout seul, mais pourquoi tu vis dans la rue? Puis tu fais passe-moi un poc, j'ai dit ben passe-moi un poc. Ben passe-moi un poc, puis je vais en compter des buts. Yeah!